Vous êtes sur RTL.
C'est vraiment un appel au secours. Et puis, ben, là, c'est le but, c'est de retrouver Fiona, c'est tout. Donc, quand on a vraiment besoin d'aide, quoi. De soutien, d'aide.
Bonsoir. Il y a 7 ans, une petite fille de 5 ans disparaissait dans le parc de Montjuset à Clermont-Ferrand. Elle s'appelait Fiona et l'histoire dira qu'elle est morte sous les coups dans le huis clos de l'appartement familial. Une mort maquillée en kidnapping, une mort cachée qui, dès le début, va placer cette affaire sous le signe du mensonge, des dissimulations, du plus abject des calculs. La mère de Fiona, Cécile Bourgeon, et son compagnon ont ainsi berné la France entière. Tout le pays s'était mobilisé pour espérer retrouver la petite fille vivante avant qu'il ne craque et avoue l'impensable. Une longue enquête de personnalité, 3 procès, une ribambelle d'experts psychiatres appelés à la barre n'ont pas permis de dire ce qui avait réellement entraîné la mort violente de Fiona et surtout n'ont pas permis de découvrir où la mère et son compagnon avaient enterré le corps de la petite fille. Un corps nu, jeté dans la nature comme un animal et laissé là sans véritable sépulture. Dans une semaine, le mardi 1er décembre, s'ouvrira devant la cour d'appel de Lyon le 4e procès de Cécile Bourgeon et de Berkane Makhlouf. L'unique chance, après toutes ces années, de peut-être approcher la vérité et de rendre justice à Fiona qui, bien trop souvent, masquée par la personnalité ambivalente du couple, est restée en filigrane de l'affaire. Cécile Bourgeon, acquittée puis condamnée lors des premiers procès, retournera-t-elle en prison pour ce crime? La lumière jaillira-t-elle enfin dans la tête des accusés pour que l'on sache où est le corps de Fiona? Nous essaierons de répondre à toutes ces questions avec nos invités. L'affaire Fiona, le procès d'une impossible vérité, c'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. On se retrouve tout de suite sur RTL.
20h-21h,
l'heure du crime sur RTL.
Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire Fiona, 7 ans après la mort de la petite fille, le 4e procès de sa mère et de son beau-père va s'ouvrir. Un couple pourtant au-dessus de tout soupçon en ce printemps 2013. Ce dimanche 12 mai 2013, une jeune femme aux cheveux blonds, mi-longs, plutôt menus, se présente au commissariat de Clermont-Ferrand. Elle est avec sa petite fille de 2 ans et demi, Eva. La mère de famille, 25 ans, est affolée. Elle vient signaler la disparition de son autre fille, la sœur aînée d'Eva, Fiona, 5 ans. Cécile Bourgeon raconte que vers 17h, elle s'est rendue avec les deux enfants pour jouer au parc de Montjuset. Malgré la météo mauvaise, il pleut ce jour-là sur Clermont-Ferrand. Cécile Bourgeon explique qu'elle s'est assoupie sur un banc pendant 15 ou 20 minutes. Elle est enceinte d'un 3e enfant et elle est très fatiguée. À son réveil, Fiona n'était plus là. Dans un premier temps, elle ne s'est pas inquiétée. Fiona ayant l'habitude d'aller parfois se cacher. Elle a commencé à l'appeler, mais n'a reçu aucune réponse. Elle a donc emprunté un téléphone portable à un couple de promeneurs et a appelé son compagnon à la rescousse. Cécile Bourgeon indique avoir alors recherché Fiona avec Berkane Makhlouf dans le vaste parc de Montjuset, 26 hectares boisés et parfois escarpés. Le couple a rameuté les personnes se trouvant sur place, des familles, des promeneurs, des joggeurs qui se sont spontanément mobilisés pour rechercher la petite fille. Le parc a été ainsi ratissé pendant 45 minutes. Cécile Bourgeon racontera « J'étais complètement paniqué, je ne me souviens même plus d'avoir pleuré. Je n'ai pas eu le temps de laisser paraître mes émotions. J'ai compris que quelque chose de grave était arrivé et je voulais garder mes forces pour l'affronter. » Prévenu, les policiers locaux prennent tout de suite l'affaire au sérieux. La thèse de l'accident paraît d'emblée la plus évidente, mais elle va rapidement laisser la place à un scénario beaucoup plus inquiétant. Dans les 48 heures qui suivent la disparition de Fiona, une centaine de militaires, autant de volontaires, de pompiers et de policiers s'affairent dans le secteur. 2 hélicoptères équipés de caméras thermiques et 4 chiens entraînés à la recherche de personnes disparues sont également mobilisés. Le signalement de Fiona Chafoulet, elle porte le nom de famille du premier compagnon de Cécile Bourgeon. Ce signalement s'affiche partout, 5 ans, visage fin, yeux bleu-vert, cheveux blonds coupés au carré, habillé d'un survêtement noir signé Hello Kitty. Les puits sont sondés, les taillis retournés. Après deux jours de recherche intensive, le procureur de Clermont-Ferrand, Pierre Sénès, abandonne la piste de l'accident. Il est alors envisagé que Fiona a quitté le parc en voiture avec un adulte. Une information judiciaire pour enlèvement et séquestration sur mineurs de moins de 15 ans est donc ouverte par le parquet. Bonsoir Vincent Vantingen.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste pour le journal 20 minutes et vous avez suivi toute cette affaire. Alors, je viens de raconter les faits. Au début, il n'y aurait absolument rien de troublant dans l'attitude de Cécile Bourgeon et de son compagnon Berkane Makhlouf.
Au départ, il n'y a effectivement pas grand-chose de troublant, si ce n'est qu'avec le recul, et c'est sans doute la réflexion qu'on se fait maintenant à la lumière de la vérité, ou du moins ce qu'on en connaît, c'est qu'on se dit qu'il y avait quand même des choses troublantes. La première fois que Cécile Bourgeon signale la disparition de Fiona dans le parc, bon, elle emprunte un téléphone portable pour appeler son compagnon et lui dire « viens m'aider à la chercher ».
À des promeneurs hein, qui
à
sont
des
là.
À des promeneurs, exactement. Et notamment, l'un de ces promeneurs, c'est un pompier volontaire qui viendra dire, lors du premier procès à la barre, « maintenant que vous le dites, je me souviens, elle était froide, elle était sans émotion. Quelqu'un qui perd son enfant est en panique, or elle était totalement froide ». Ce que vous avez dit, du reste, et elle-même l'a avoué en disant « j'ai gardé mes émotions pour affronter plus tard la réalité ». Et puis après, il y a quelques petits éléments troublants. Elle dit s'être assoupie dans le parc Montjuset, dans l'herbe, alors qu'il fait humide, il pleut un petit peu ce jour-là, et elle porte un legging blanc. C'est un petit détail qui va revenir aux oreilles des enquêteurs plus tard, puisqu'ils se disent qu'avec un legging blanc dans de l'herbe humide...
On va se salir, c'est ça?
Exactement.
Hein, on va se salir, elle va dire...
Or, il n'y avait pas de trace.
Or, il n'y a pas de trace, la version va un peu varier, puisqu'elle va dire « je me suis endormie sur un banc, puis elle ne sait plus très bien, etc. » Tout ça est extrêmement confus. Ce parc de Montjuset, à Clermont-Ferrand, on ne peut pas dire qu'il soit mal fréquenté. C'est un lieu de promenade pour les familles, c'est ça?
Exactement, c'est un très très grand parc, c'est quasiment le parc le plus connu de Clermont-Ferrand, vous l'avez rappelé, 26 hectares, un petit peu escarpés, des endroits reculés, c'est le parc de la balade dominicale, les enfants vont jouer, et il y a des recherches intenses qui sont effectuées dans ce parc par les équipes cynophiles, des hélicoptères. Pour vous donner une idée de l'ampleur des recherches, on va retrouver un corps ce jour-là, pas celui de Fiona, mais dans un taillis, derrière un taillis, on va retrouver un corps qui est là depuis au moins 13 ans, puisqu'il s'agit d'une personne âgée qui avait disparu et qui avait des francs dans les poches. Or, on est en 2013, l'euro c'est en 2000, donc ça fait au moins 13 ans que ce cadavre est là.
Incroyable anecdote, ça veut dire que c'est aussi un lieu où l'on peut cacher quelqu'un ou se cacher sans trop se faire remarquer, vu l'ampleur du périmètre.
Oui, parce que le parc est très vaste, on l'a dit, il est un petit peu escarpé, puis il y a des endroits, des passages un petit peu reculés où on ne va pas, qui sont en dévers. Et c'est dans l'un de ces passages que les enquêteurs retrouvent une personne âgée qui avait disparu de son établissement et dont on n'avait plus de nouvelles.
Alors Vincent Vantingen, très vite, je l'ai dit, la justice va prendre très au sérieux cette enquête. Hein. Là, on ne va pas rigoler. D'abord, c'est une toute petite fille, elle a 5 ans, elle est mineure. Donc en général, ça va très vite de ce côté-là. Le 17 mai, soit deux jours après l'ouverture de l'information judiciaire, il y a une première reconstitution qui est organisée. Aux alentours de 16h30, pourquoi aussi vite une reconstitution? En général, on attend parfois des semaines ou des mois pour y procéder à ce genre d'opération.
Tout simplement, ça c'est aussi quelque chose qu'on a appris par la suite, notamment lorsque les enquêteurs sont venus témoigner lors des procès successifs. Il y a deux thèses qui vont très vite s'affronter chez les enquêteurs. Ceux qui, dès le départ, vont croire la version de Cécile Bourgeon qui éplorée, pleurante, fait les caméras, enfin fait les directs devant les caméras pour dire aidez-moi à retrouver ma fille, et ceux qui vont dire dès le départ je ne la crois pas, il y a quelque chose de bizarre. Et donc les enquêteurs se disent on va peut-être faire une première reconstitution, un premier transport sur les lieux, un premier déplacement, de manière à voir déjà s'il y a des incohérences, s'il y a quelque chose.
C'est-à-dire pour provoquer peut-être un électrochoc ce couple.
Hein. Oui, un électrochoc, et aussi parce qu'ils se sont déjà rendus compte, lors des premières auditions, qu'il y avait des incohérences, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas forcément la même chose. La première des incohérences, qui peut paraître un détail, c'est que, sitôt la disparition signalée, Cécile Bourgeon dit « ce matin, je me suis allé me balader avec mes filles, Berkane est resté à l'appartement pour dormir ».
Oui, parce qu'elle dit qu'il est insomniaque.
Oui, il est insomniaque, il a des problèmes de
sommeil. Donc ce matin-là, il n'était pas avec moi.
Ouais. Enfin, et lui, étant entendu, il dit ah « Non, je suis allé me balader avec elle ». Et puis il se reprend en disant « Ah, je me souviens plus ». Et il y a des gros trous dans l'emploi du temps de la semaine précédente, en fait, les faits.
Donc tout ça fait mauvaise impression, si je puis dire.
En tout cas, instille le doute dans la tête des enquêteurs.
Et en tout cas, le procureur, effectivement, de Clermont-Ferrand, lui, il a de sérieux doutes dès le début, on peut le dire. Dès cette époque, il tique, comme on dit.
Il fait partie de cette catégorie d'enquêteurs qui va dire, voilà, quand on a une disparition d'enfant de ce type-là, quand on a ces déclarations, alors il n'y a pas de statistiques, mais on va dire dans 90%, dans 85%, dans 95%, il y a une responsabilité intrafamiliale.
Toute l'équipe d'enquête assiste à cette reconstitution. Le procureur Pierre Sénès, le commissaire divisionnaire Marc Fernandez et les deux juges d'instruction, la petite Fiona reste introuvable. On va s'intéresser donc aux personnalités de sa mère et de son beau-père, mais aussi au père biologique, Nicolas Chafoulet. L'affaire Fiona, où est passée la petite fille blonde au sourire espiègle? L'enquête de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime. RTL. 20h, 21h.
L'heure du crime sur RTL.
L'heure du crime consacrée ce soir à l'affaire Fiona. En ce mois de mai 2013, la petite fille, 5 ans, a subitement disparu. Aucun indice, aucune piste, si ce n'est celle de l'entourage familial. Qui sont donc Cécile Bourgeon, la mère, et son compagnon, Berkane Maclouf? Dans les jours qui suivent la disparition, Cécile Bourgeon ressasse son histoire. Elle affirme vivre un cauchemar. Elle se dit rongée par la honte et par la culpabilité d'avoir perdu Fiona, de n'avoir pas réussi à la surveiller. Dès qu'elle évoque sa fille aînée, son visage s'illumine sans équivoque. C'est une petite fille courageuse, souriante, vivante, téméraire, inconsciente parfois du danger, raconte-t-elle. Les policiers doivent toutefois en savoir davantage sur cette mère et son compagnon qui vivent alors à deux adresses différentes. Les deux logements sont perquisitionnés, un ordinateur saisi. Cécile Bourgeon ne s'offusque pas de la direction de l'enquête. La mère de Fiona trouve même ses vérifications encourageante. Elle présente son compagnon, Berkane, comme un homme qui s'est toujours bien comporté avec les deux filles qu'elle a eues avec son premier compagnon, Nicolas Chafoulet. Elle dit que Berkane aime Fiona et Eva comme ses propres filles. Cécile et Berkane ont même prévu de se marier, d'abord à la mosquée, puis à la mairie. À Paris Match, la mère confie « Nous sommes une vraie famille, nous nous épaulons. Quand l'un flanche, l'autre le rattrape. » Et inversement, la réalité ne correspond pas vraiment à cette description idéale. Berkane Maclouf apparaît comme un toxicomane, consommateur assidu d'héroïne et de cocaïne. Il lui arriverait de dealer occasionnellement pour pouvoir se payer ses doses. Il a rencontré Cécile Bourgeon il y a moins d'un an, alors qu'elle était serveuse dans un café. Le couple ne travaille pas et vit des aides sociales. Elle aussi serait consommatrice de drogue, elle l'était d'ailleurs déjà, avec son premier compagnon Nicolas Chafoulet, le père des deux fillettes, avec qui elle a vécu près de 8 ans, mais dont elle n'a plus aucune nouvelle. Elle ignore même son numéro de téléphone. Leur relation aurait commencé à se dégrader après la naissance de Fiona. Cécile Bourgeon affirme avoir pris l'initiative de la rupture. Nicolas l'aurait mal supportée et aurait demandé la garde des enfants. Cet homme aurait-il enlevé Fiona? L'hypothèse, aussitôt formulé et aussitôt balayé, Nicolas Chafoulet est mis hors de cause. En revanche, les explications de Cécile Bourgeon et de Berkane Maclouf ne lèvent pas toutes les interrogations. La police a des doutes sur la téléphonie. Elle est également intriguée par une découverte sur l'ordinateur portable du couple. Il apparaît que la mère et son compagnon ont consulté des sites concernant des disparitions d'enfants, et ce, quelques jours avant celle supposée de Fiona. Vincent Vantingen, je reviens vers vous. Vous êtes journaliste à 20 minutes. Vous connaissez parfaitement ce dossier. Alors, déjà, il y avait des doutes. On les a expliqués au cours des premières heures de cet enlèvement, entre guillemets. Et là, qu'est-ce qui cloche concernant Cécile Bourgeon et son compagnon au fil des heures et à mesure que l'enquête progresse?
C'est surtout l'attitude finalement de Cécile Bourgeon et de Berkane Maclouf dans les jours, les semaines et même les mois, on va dire les quelques mois qui ont suivi la disparition de Fiona qui va intriguer les enquêteurs. Très rapidement après les faits, Cécile Bourgeon et Berkane Maclouf déménagent à Perpignan où vit la famille de Cécile Bourgeon, sa maman et son beau-père. Et puis elle explique tout simplement que c'était prévu, puis c'est pas parce que Fiona a disparu qu'ils vont pas déménager.
La vie continue.
La vie continue comme si finalement presque de rien n'était, pourrait-on dire. Et puis on s'aperçoit, puisqu'à ce moment-là, en fait, les deux protagonistes sont placés sur écoute par les enquêteurs qui ont toujours dans un coin de la tête ce petit doute, puis se rendent compte qu'ils ont une attitude assez étrange, plutôt que d'apparaître comme une mère éplorée comme elle le fait à longueur d'interview. Dans le cercle privé, Cécile Bourgeon est une femme plutôt joyeuse qui prend soin d'elle, qui fait du shopping, voilà, qui a une attitude en tout cas qui ne correspond pas avec le visage qu'elle montre à longueur d'interview pour demander de l'aide pour retrouver Fiona.
Donc ça pose interrogation, évidemment. Y a deux points tout de même là, dès le début de l'enquête, qui vont se dessiner. Il y a des problèmes avec la téléphonie. On ne sait pas très bien s'ils étaient là au parc Montjuïset ou bien s'ils étaient ailleurs. C'est ça, expliquez-nous.
Exactement. Cécile Bourgeon et Berkane Maclouf vont à de très nombreuses reprises dire j'avais plus de forfait, j'avais plus de crédit, je ne sais plus où était mon téléphone. Mais on ne sait pas en fait si véritablement le matin ils sont allés au marché des Salins comme ils l'ont indiqué, puis s'ils sont allés au parc. Alors au parc, on a effectivement vu Cécile Bourgeon et on a vu la petite sœur de Fiona. En revanche, les premiers témoins disent on n'a jamais vu Fiona. Donc déjà, il y a un premier doute là-dessus.
C'est-à-dire, les témoins, ça c'est important, on s'arrête une seconde là-dessus. C'est-à-dire que les témoins visuels, ils sont bien au contact de Cécile Bourgeon. Elle va même emprunter en téléphone, on l'a dit, à des promeneurs, mais personne ne voit la petite Fiona.
C'est-à-dire que les premiers témoins interrogés, tous les gens, puisqu'on l'a dit, les enquêteurs ont fait un travail vraiment de fourmi, ils ont tout ratissé, ils ont retrouvé les protagonistes à l'aide des différents appels à témoins. Et tous les gens, il n'y en a aucun qui dit « j'ai vu Fiona ». Personne ne dit en arrivant « oui, elle était là avec sa petite sœur, elles sont allées jouer » ou « on les a vues auprès de leur mère ». Que ce soit avant ou après, bien évidemment, personne ne l'a vu.
Après, ce n'est pas totalement illogique, puisque la petite fille aurait disparu, nous dit-on.
Mais certains disent « oui, on a bien vu Cécile Bourgeon, on a vu la petite sœur quand ils sont rentrés dans le parc, mais on n'a pas vu la grande sœur ».
On n'a pas vu la grande sœur. J'ai fait état aussi de la saisie de l'ordinateur portable du couple. Alors là, c'est assez troublant quand même.
Il y a plusieurs choses qui sont découvertes dans cet ordinateur portable. On se rend compte, les enquêteurs se rendent compte les jours précédant la disparition de Fiona, des recherches ont été effectuées. S'affiche notamment un groupe Facebook sur la disparition de deux enfants dans un parc à Marseille. Et puis s'affiche également des recherches qui ont été faites avec les mots-clés « viol », « séquestration » et sur des affaires de disparition d'enfants, notamment la petite Tiffaine qui avait disparu dans le Nord quelques années auparavant.
Donc là, c'est plus que troublant. Là, les enquêteurs, effectivement, commencent à se poser quand même beaucoup, beaucoup de questions. D'autant plus que la personnalité, on peut dire, ne prêche pas en la faveur de ce couple. On est à la limite de la marginalité. C'est ça. Beaucoup de drogue, beaucoup, presque de la violence aussi. C'est le portrait que l'on esquisse.
Ce que vous avez rappelé tout à l'heure, c'est qu'effectivement, ce sont tous les deux des consommateurs de stupéfiants, mais ce ne sont pas des petits consommateurs de stupéfiants. Ils le disent eux-mêmes, depuis, ils l'ont reconnu, ils le disent, ce sont des très très gros consommateurs. C'est-à-dire qu'on prend de la cocaïne, de l'héroïne, du Subutex, c'est-à-dire un traitement de substitution à l'héroïne, mais on prend quand même de l'héroïne. Les enquêteurs ont découvert aussi, ça on n'en a pas parlé, mais dans la perquisition de l'appartement, 10 pots de culture de cannabis à l'intérieur. Et notamment, ça fera couler beaucoup d'encre, puisqu'il y a une photo de la petite Fiona qui est versée au dossier, sur laquelle elle pose devant les pots de cannabis cultivés par ses parents. Donc on est vraiment sur des très très gros consommateurs qui finissent par reconnaître, et ça se dit dans le milieu toxicomane qui est interrogé à Clermont-Ferrand, qu'il fréquentait un squat où il consommait régulièrement de la drogue, un squat qui est effectivement au bord de la marginalité, et c'est un squat où par moment Cécile Bourgeon se rendait avec ses deux filles.
Et les policiers vont aller d'ailleurs enquêter dans ce squat. Encore un petit mot sur ce début d'enquête. Que dit Nicolas Chafoulet, qui est le premier compagnon de Cécile Bourgeon? Lui, tout de suite, il a vraiment des doutes sur le fonctionnement de ce couple. Il sent que quelque chose de très anormal, voire de tragique, s'est produit.
Lui, il a des doutes, il a surtout une grande inquiétude en fait, parce qu'il fait le lien avec son histoire personnelle avec Cécile Bourgeon et Berkane Maclouf, le nouveau compagnon de son ex-femme. Et puis il dit, depuis que cet homme est rentré dans sa vie, elle a changé, je ne peux plus voir mes filles, il y a quelque chose d'étrange. Et le dernier contact que j'ai eu avec eux, c'était, ça date d'il y a un an avant la disparition de Fiona. ils ont failli en venir aux mains. Et il y a quelque chose de marquant, c'est que Nicolas Chafoulé explique qu'il a failli taper Berkan Makhlouf et pour éviter d'avoir des ennuis, il a donné un coup de pied dans un réverbère et il s'est fracturé le tibia.
4 mois après la disparition de la petite fille et après que Cécile Bourgeon a accouché d'un petit garçon, le couple va être appréhendé à Perpignan. Dès lors, c'est un tout autre scénario sordide qui va se dessiner. L'affaire Fiona, le crime inavouable d'une petite fille. L'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL.
20h-21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Lost Horse, c'est un extrait du tout nouvel album d'Assaf Avidan, ce soir dans l'heure du crime sur RTL.
20h-21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Et ce soir, heure du crime consacrée à l'affaire Fiona. Après 4 mois d'enquête, la mère de la petite fille et son compagnon sont interpellés à Perpignan, ville dans laquelle ils avaient déménagé juste après la disparition. Ce mardi 25 septembre 2013 au soir, les enquêteurs de la police judiciaire perquisitionnent dans l'appartement loué par Cécile Bourgeon et Berkan Makhlouf dans un quartier populaire au nord de Perpignan. Ils sont installés ici depuis 3 mois pour que Cécile se rapproche de sa mère. Le couple est aussitôt placé en garde à vue et face au feu roulant des questions ne s'accroche plus à la thèse de la disparition. Le premier, Berkan Makhlouf, reconnaît un accident domestique. Selon Makhlouf, la petite Fiona s'est étouffée dans son vomi. Ils l'ont trouvée inanimée au matin et ont paniqué. Il aurait imaginé alors avec sa compagne un scénario destiné à les innocenter. Cécile Bourgeon passe elle aussi aux aveux dans les bureaux du commissariat de Perpignan. Mais livre elle une version différente des faits. Elle raconte que dans la nuit du 11 au 12 mai, jour présumé de la disparition, Berkan a donné un coup violent sur la tempe de Fiona. La petite fille a eu alors le visage déformé par un bleu et a vomi à plusieurs reprises. Le couple l'a retrouvée le lendemain morte dans son lit. Berkan admet des coups mais ne dit pas qui aurait pu les donner. En l'absence de témoins, impossible de corroborer la version de la mort de la petite fille. Les enquêteurs jugent ces déclarations changeantes, fragiles, souvent formulées sur un ton irrité. Il n'est alors pas exclu que Fiona ait pu mourir en absorbant accidentellement du Subutex, un substitut à l'héroïne lors d'une soirée entre toxicomanes. La mère de la petite fille explique qu'elle a voulu appeler les secours, mais que son compagnon l'en aurait dissuadé. Cécile Bourgeon indique la manière dont ils ont fait disparaître le corps. Scénario insoutenable. La mère explique que le corps dénudé a été placé dans un sac, qu'il a été ensuite chargé dans le coffre de la voiture tôt le matin du 12 mai. Elle est partie avec Berkan, mais également avec la petite sœur de la victime, Eva, en direction d'une forêt de la région. Elle ne se souvient plus laquelle exactement. Une fois sur place, Berkan Makhlouf aurait fait un trou et jeté le corps dedans. Interrogé, le compagnon est lui aussi incapable de dire où il a abandonné le petit cadavre. La mémoire ne lui revient pas. Bonsoir maître Rodolphe Constantino.
Bonsoir.
Merci d'être ce soir l'un des invités de l'heure du crime. Vous êtes l'avocat de l'association Enfance et Partage. Je rappelle, dans la mission est de protéger évidemment les enfants victimes de toute forme de violence. Vous allez également représenter lors de ce procès qui arrive l'association Innocence en danger. Alors j'ai raconté dans les grandes lignes, parce que sans doute la réalité est beaucoup plus atroce que ça, la fin de Fiona, des coups, un huis clos familial. On est dans l'illustration parfaite de ces crimes qui visent les enfants et crimes que personne ne voit, c'est ça ?
Oui, de ces enfants qui meurent sous les coups parce que les coups sont devenus habituels depuis quelques jours, qu'ils sont déjà très affaiblis et qu'ensuite il suffit d'un plus mal placé qu'un autre pour provoquer la mort de l'enfant.
Qu'est-ce qu'il y a de difficile dans ces dossiers, maître Constantino ? Et là, je parle surtout d'ailleurs du côté des enquêteurs. C'est d'approcher la vérité, ça semble quasiment impossible. Personne ne parle ou il y a très peu de confidences.
Oui, c'est très difficile parce que on a affaire à des couples qui sont traditionnellement des couples pathologiques, on va dire, qui communient autour de la violence d'un enfant, un enfant devenu comme un caillou dans une chaussure, un enfant dont il faut se débarrasser pour des raisons X ou Y. C'est les configurations qu'on voit le plus souvent et ce sont des couples assez diaboliques parce qu'ils se soutiennent mutuellement. Et d'ailleurs, c'est une des interrogations du procès à venir.
Bien sûr.
Est-ce qu'au fond, on prend, pour ce quatrième procès, on reprend les mêmes et on recommence, comme on dit, si vous me permettez cette expression, ou est-ce qu'on va avoir une espèce de nouvelle donne? Je veux dire par là, est-ce que le pacte de non-agression qui existait entre ces deux accusés va continuer d'exister ou pas, c'est la question, puisque la situation a quelque peu changé, et pour l'un et pour l'autre.
Parce que ce que vous décrivez là, finalement, c'est cette emprise, c'est très important ce que vous dites, c'est une emprise, c'est un couple infernal, c'est ça, chacun alimente sa haine, etc., et tout retombe sur cette petite fille.
Oui, en fonction des personnalités de chacun, hein, on a diverses configurations qui se voient dans ces dossiers-là. Il y en a parfois un qui est le bras armé de l'autre, un qui instigue la violence de l'autre, et puis parfois ce sont des violences en concours, comme c'est le cas dans cette situation ici, manifestement, où l'un sert de caution à l'autre. Peut-être que pris l'un et l'autre séparément, j'ai envie de dire, ils auraient été peut-être des parents non maltraitants, mais le couple, c'est comme l'association des deux éléments de la nitroglycérine.
C'est ça, les deux fonctionnent, sinon un seul, ça ne marche pas. Est-ce que vous avez le sentiment que dans ce couple, encore dans cette affaire Fiona, il y a un meneur ou une meneuse ?
Non, j'ai vraiment l'impression qu'on est à égalité de responsabilité dans cette affaire, même si il y en a un, j'ai envie de dire, pour lequel la chose est plus évidente, mais les hommes dans ces affaires-là sont toujours bénéficient d'une sorte de présomption de culpabilité. Ce sont souvent des hommes qui sont par ailleurs violents. Donc il est souvent facile pour les femmes de se cacher derrière cette violence-là et de dire « mais non, c'était un homme violent, j'ai moi-même subi ces violences », ce que dit d'ailleurs Madame Bourgeon, en disant « il tapait aussi les enfants, mais j'avais pas la possibilité en fait de m'interposer là-dedans ». Voilà. C'est souvent ça l'économie générale.
Elle dit, Cécile Bourgeon, elle dit finalement « j'ai subi ». Vous restez bien sûr avec nous dans l'heure du crime, maître. Vincent Vantinghem, notre autre invité ce soir dans l'heure du crime. Alors, avec vous, on refait un petit peu cette enquête. Là, on est dans les interrogatoires, hein, juste avant les mises en examen. En quoi les versions entre Berkane Makhlouf et Cécile Bourgeon diffèrent ? Quels sont les points qui ne fonctionnent pas ?
Les enquêteurs vont donc procéder à plusieurs auditions de l'un et de l'autre. Et puis, finalement, au bout du quatrième interrogatoire de Cécile Bourgeon, de sa quatrième audition, elle va finir par dire oui, d'accord, Berkane a donné un coup. Au départ, elle parle d'une claque, puis d'un coup de poing, on ne sait pas trop exactement. Lui, quand il est interrogé au départ, il parle d'un accident. Il dit « elle est tombée de vélo », puis le vélo va se transformer en trottinette, puis la trottinette va se transformer en « elle est tombée sur un coin ». Donc voilà, il y a vraiment des choses qui diffèrent.
Il va dire aussi, Berkane, je crois, coupez-moi si je dis une bêtise, mais il va dire aussi « la petite fille, Fiona, imitait sa mère en train de vomir ». Il faut rappeler que Cécile Bourgeon est enceinte, donc et je ne l'ai pas supportée, c'est ça.
Il y a ça également qui rentre en ligne de compte, puisque le soir précédent les faits, il se trouve que la petite fille vomit à force d'avoir subi des coups. La thèse invoquée, bien sûr, on ne le saura. Pour l'instant, on ne le sait pas, le corps n'a jamais été retrouvé, mais les médecins légistes expliquent qu'elle serait morte à cause de violences dans l'abdomen, ce qui expliquerait les vomissements. Et lui dit, non, mais elle vomissait parce qu'elle s'amusait à faire semblant de vomir comme sa mère qui était enceinte.
C'est ça. Alors, vous avez entendu Maître Constantino, qui était avec nous il y a un instant, et qui est toujours en ligne dans l'heure du crime. Il dit que les responsabilités sont très partagé dans ce crime. On a tout de même le sentiment que Cécile Bourgeon essaie d'aider, d'ailleurs les premières heures de garde à vue, d'atténuer à tout prix sa responsabilité.
Oui, c'est un petit peu ce qui ressort des différentes auditions, c'est-à-dire qu'elle va finir par dire, voilà, Berkane a donné des coups, et lui à l'inverse ne va jamais dire, du moins lors des premières auditions, Cécile a donné des coups. Et il y a un élément qui est très, très intéressant lors de cette garde à vue, c'est que Berkane Makhlouf va parvenir à subtiliser un téléphone portable. Ça peut paraître dingue, mais il réussit...
Au cours de la garde à vue.
Au cours de la garde à vue.
Bah allez-y, alors expliquez-nous.
À prendre le téléphone portable d'un enquêteur et il passe un coup de fil à Cécile Bourgeon. Depuis sa cellule au dépôt, il passe un petit coup de fil à Cécile Bourgeon et on a la retranscription de cette écoute, puisque bien sûr ça a été écouté. Il lui laisse un message où il dit « Voilà, j'ai fait comme on a dit, je suis resté sur la version, mais alors sur le coup sur la tempe, t'as dit un petit peu n'importe quoi, mais ça va aller, tu sais, je suis prêt à tout pour toi, etc. » Et là, les enquêteurs se disent « Bon, voilà, là, il y a un vrai problème, il y a vraiment quelque chose. » Et c'est à la suite de ça, dans un laps de temps qui est relativement court, que Cécile Bourgeon passe véritablement aux aveux sur les causes exactes de la mort.
Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf sont déférés devant le parquet de Clermont-Ferrand, puis devant un juge d'instruction. Lui est mis en examen pour coup mortel aggravé, elle pour non-assistance à personne en danger, recel de cadavre, dénonciation de crimes imaginaires et destruction de preuves. L'affaire Fiona, le martyr silencieux d'une petite fille. L'enquête ce soir dans l'heure du crime, on se retrouve tout de suite sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire Fiona. La mère et son compagnon ont avoué le crime, sans dire où ils ont enterré la petite fille. 3 ans après les aveux, ils comparaissent devant une cour d'assises. Le lundi 14 novembre 2016, Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf comparaissent devant la cour d'assises du Puy de Dôme au palais de justice de Riom. Dans le box des accusés, séparés par un gendarme, ils n'ont pas un regard l'un pour l'autre. Procès d'un mensonge et d'une mystification. Pendant des jours, ils ont fait croire à la France entière, devant les caméras, que leur petite Fiona avait disparu, alors que ses larmes et ses affirmations cachaient en fait le plus sordide des scénarios, celui des coups mortels pour la petite fille, distribués dans un foyer où les cris, les punitions et la consommation de drogue dure semble faire partie du décor. Procès du mensonge et de la violence. À l'audience, Marie Grimaud, avocate de l'association Innocence en danger, partie civile, constate que la cour ne dispose que de la parole opaque des accusés, mais que le dossier est suffisamment épais pour comprendre que Fiona a beaucoup souffert. Cécile Bourgeon, qui après la disparition décrivait une petite fille heureuse, joyeuse et souriante, aurait donc assistée, impuissante, aux violences subies par sa fille. Au procès, elle fait état de la déposition de l'assistante maternelle qui affirme que Fiona ressemblait, je cite, à un petit cadavre ambulant la dernière fois qu'elle l'a vu. Une guichetière de cinéma dit avoir vu quelques jours avant sa mort une fillette qui se comportait comme un zombie. Cécile Bourgeon avait placé un bandeau jaune sur la tête de sa fille, artifice ne permettant pas de dissimuler un gros hématome sur sa tempe. Le père biologique de Fiona, Nicolas Chafoulet, s'exprime à l'audience. Il est en colère et désespéré. « Je veux savoir où est le corps de ma fille, je veux connaître la vérité. » 11 jours de débat ne vont pas permettre d'apporter une réponse précise à ces interrogations. Les accusés se renvoient dans une espèce de brouillard et de souvenirs confus. La responsabilité du crime, une vérité mouvante, impossible alors à saisir. Maître Rodolphe Constantinou, vous êtes toujours avec nous dans l'heure du crime.
Sur
RTL, je rappelle que vous êtes l'avocat de l'association Enfance et Partage et que, évidemment, vous serez partie civile au procès qui va arriver le 1er décembre. Alors là, il faut que vous nous expliquiez, Maître Constantino, parce que moi, je ne comprends pas. Il y a eu des, non pas des signalements, mais en tout cas des personnes qui avaient vu la petite fille avant qu'elle ne meure et qui l'ont décrite comme une espèce de cadavre ambulant. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots d'une assistante maternelle. Pourquoi n'a-t-on rien vu venir ?
Pourquoi n'a-t-on rien vu venir ? Cette question, j'ai envie de dire, elle traverse absolument tous ces dossiers d'une manière absolument glaçante. Ça aussi, c'est quelque chose de tristement ordinaire dans ces affaires. Mmh. C'est-à-dire que, on a des enfants qui se dégradent jour après jour. Parfois même aux yeux des services sociaux, sans que personne ne s'aperçoive de rien.
Parce que là, c'est tout de même assez flagrant. Il y a cette description physique qui est faite par, encore une fois, une assistante maternelle. C'est quelqu'un qui a quand même de la responsabilité. Et puis, il y a cette espèce de blessure que porte la petite fille sur sa tête. Et là, c'est le silence total. C'est très effrayant hein, comme constat.
Silence total, cet enfant va effectivement sombrer peu à peu, de jour en jour, puisqu'on sait qu'au moins une semaine avant, en tout cas, les choses se dégradent de manière très significative, sans que, en effet, ça n'émeuve personne. Mmh. En tout cas, surtout pas ses parents, il ne faudrait pas aller chercher d'autres responsabilités que les leurs.
En tout cas, une seule certitude à ce procès, cet enfant, Fiona, est bien morte sous les coups, maître. Hein. Ça, on en est convaincu, c'est sûr.
Oui, on est absolument convaincu. Ensuite, il y a diverses hypothèses qui ont été posées par les experts, médecins légistes, mais dans une affaire assez singulière, puisque c'est une affaire sans cadavre, comme vous l'avez si justement rappelé, avec plusieurs hypothèses. Vous évoquiez tout à l'heure effectivement un coup très violent à l'abdomen, mais les vomissements psychogènes de cet enfant pouvait être lié de toute façon, très clairement, d'après l'expert, à une situation réactionnelle, à des dysfonctionnements familiaux et à des coups, effectivement, qui étaient des coups réguliers. Mais l'hypothèse d'une lésion intracrânienne qui aurait été fatale a relié avec ces vomissements qui ont été relevés, qui ont été révélé par les accusés, pourrait être aussi à l'origine de la mort.
D'où l'importance, effectivement, de retrouver, un jour ou l'autre, le corps de la petite Fiona, hein, maître. On est bien d'accord. Hein.
Ah ben, si on peut exprimer une conviction, et en tout cas, si je peux en exprimer une tout à fait personnelle, mais je crois que je la partage avec de très nombreux observateurs et de très nombreux protagonistes de cette affaire, je pense que il y a une volonté manifeste qu'on ne retrouve pas le corps de cet enfant, parce que retrouver le corps de cet enfant, ce serait pouvoir déterminer ce qui lui a été fait.
Ça serait pouvoir déterminer ce qui lui a été fait. Vincent Vantigem, je reviens vers vous. Vous êtes notre autre invité dans l'heure du crime, journaliste à 20 minutes. Vous connaissez parfaitement ce dossier. Alors, je reviens avec vous sur ce procès, ce tout premier procès. Et là, il y a deux portraits qui se dessinent. Cécile Bourgeon, tout d'abord. Alors là, on a droit à son enfance, à son trajet, à sa trajectoire. Qui est-elle, finalement? Qu'est-ce qui apparaît d'elle?
Bah, Cécile Bourgeon, il y a quelque chose qui est assez troublant lors du premier procès, c'est que les premiers jours, elle est plutôt dépeinte comme une mère de famille qui dit « voilà, Fiona, c'est l'amour de ma vie, du reste, je veux d'autres enfants, voilà, je suis une mère qui s'occupe bien d'elle ». Elle se décrit elle-même, elle se drape dans une forme de dignité, et puis elle est plutôt sereine et à l'aise. Et puis, à la barre, tour à tour, viennent ses anciennes amies, ses anciennes copines d'héroïne, comme elle se nomme, et ses anciennes voisines. Et puis là, on découvre une toute autre mère, notamment l'une de ses voisines qui vient révéler à la barre. Elle dit « bah voilà, bien souvent, le soir, la nuit, j'entendais les fillettes pleurer, donc j'avais une clé de chez elles, et puis j'allais les chercher, je les faisais dormir chez moi ». Donc le président de la cour d'assises, les jurés se disent « mais attendez, à quelle heure ?» Vers 2h, 3h du matin, donc on réinterroge Cécile Bourgeon, on dit « mais vos fillettes étaient toutes seules durant la nuit, alors qu'elles sont âgées de 5 et 2 ans et demi, il faut le rappeler ». Et là, Cécile Bourgeon qui reconnaît, dit « bah je travaillais tard, je travaillais au bar parfois, je finissais à 2h du matin, puis après il m'arrivait d'aller prendre un verre, donc je rentrais dans la matinée ». Donc là, on se rend compte que la mère aimante a une attitude pour le moins surprenante en matière d'éducation. Et puis, on vient faire témoigner les copines d'héroïne, tous les gens qui gravitent dans le milieu toxicomane à Clermont-Ferrand, qui expliquent que elle n'hésitait pas à amener ses fillettes dans le squat où elle les collait devant un dessin animé le temps de consommer des stupéfiants avec ses autres amis. Donc voilà, une mère vraiment à deux visages, dont les psys vont venir expliquer que pour elle, avoir une enfant, c'était comme s'offrir une glace ou avoir un nouveau sac à main.
Ouais, c'est ça. Un mot sur Berkane Makhlouf, son portrait à lui. Lui aussi, c'est quelqu'un de, j'allais dire, complètement largué, c'est ça? C'est un junkie.
Berkane Makhlouf est quelqu'un dont la trajectoire a été très très difficile. Son père est décédé quand il était assez jeune, et sa maman a été totalement débordée, totalement dépassée dans l'éducation de ses enfants. Lui vivait à Nevers, et très rapidement, en fait, il a été placé dans un foyer, sa maman ne pouvant pas parvenir à assumer son éducation. Et puis Berkane Makhlouf, de foyer en foyer, il se retrouve un peu à la rue, il gravite entre, effectivement, la marginalité, les squats, jusqu'au moment où il rencontre Cécile Bourgeon, et il est très très gros consommateur de stupéfiants, mais on l'a déjà dit.
Les jurés tranchent. Contre toute attente, Cécile Bourgeon est acquittée pour les violences volontaires. Elle n'aurait donc pas participé à la mort de Fiona. Elle écope de seulement 5 ans de prison. Son compagnon Berkan Makhlouf est condamné lui à 20 ans de réclusion pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Premier procès, 3 autres vont suivre. L'affaire Fiona, une fillette morte sous les coups, saura-t-on un jour la vérité? L'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve tout de suite sur RTL.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL.
Et ce soir, au programme de l'heure du crime, l'affaire Fiona. Cécile Bourgeon et Berkan Makhlouf ont déjà été jugés. Le compagnon est considéré comme le seul responsable des coups mortels. Verdict trop clément pour Cécile Bourgeon. Le parquet fait donc appel. Le 9 octobre 2017, revoilà donc Cécile Bourgeon et Berkan Makhlouf devant la cour d'assises d'appel de Haute-Loire au Puy-en-Velay. 4 ans. Une longue enquête, un procès n'ont pas permis d'éclairer tous les mystères de la mort de Fiona. En premier lieu, celui de l'endroit où a été enterré le corps. Des médiums, des radiesthésistes se sont manifestés auprès des enquêteurs, mais la tombe de Fiona reste secrète. Cécile Bourgeon, qui dit ne plus se souvenir de l'emplacement où la dépouille de sa fille a été abandonnée, tentera dans les mois suivants de retrouver ses souvenirs au travers de séances d'hypnose. Après 4 jours d'audience, le procès tourne court pour une question juridique. Il est renvoyé. Un troisième procès débute donc le 29 janvier 2018 devant la même cour d'assises. Lors des débats, Berkan Makhlouf est présenté comme un homme violent et ce depuis l'enfance, tombé très jeune dans la consommation d'héroïne, quelqu'un de très menaçant, en état de manque, capable de mettre ses menaces à exécution, témoigne une ex-compagne, une autre ancienne amie de l'accusé. Parle d'un être pervers. Elle indique si Cécile Bourgeon n'avait pas rencontré Makhlouf, Fiona serait encore en vie. Malgré cette attention portée aux compagnons, les jurés vont considérer que Cécile Bourgeon a joué un rôle dans la mort d'une petite fille qui semblait gêner le couple. Elle et son compagnon sont cette fois condamnés à 20 ans de réclusion. Jugement annulé par la Cour de cassation pour Cécile Bourgeon. Le 4e procès, le 1er décembre, sera donc le dernier. Vincent Wantinghem, à ce procès, ce 2e procès, puis 3e procès, Cécile Bourgeon, physiquement encore changée, une psychologue va dire lors des audiences que seules ses grossesses, je cite, lui redonnent un sentiment de confiance. Et d'ailleurs, elle va avoir un 4e enfant en détention lors de cette période.
En sortant de détention, elle va effectivement tomber enceinte et depuis elle a eu un 4e enfant. Ça, c'est un trait de la personnalité de Cécile Bourgeon qui est ressorti des différentes analyses des psychologues et des psychiatres, où effectivement elle se complaît dans le statut de femme enceinte. C'est quelque chose qu'elle reconnaît elle-même et c'est du reste quelque chose qui avait en partie choqué l'opinion publique lors du premier procès à Rion, puisqu'elle s'était énervée en disant « Je perds mon temps en prison, moi j'ai envie d'avoir d'autres enfants ». Déclaration pour le moins surprenante quand on est accusé d'être à l'origine de la mort de sa propre fille.
Vous confirmez cette succession de procès qui se rapprochent quand même. C'est une femme très fragile, comment la croire, ou bien c'est une femme forte qui dissimule ?
C'est toute la difficulté, et du reste c'est la difficulté à laquelle les jurés de la cour d'assises d'appel de Lyon vont être confrontés la semaine prochaine, c'est justement de faire la distinction entre est-ce une femme fragile ou est-ce une femme manipulatrice. Je vais donner juste un petit exemple, une petite anecdote. Cécile Bourgeon, depuis qu'elle est apparue sur les caméras en 2013 lors de la disparition, elle a pris 50 kilos, ce qu'elle a elle-même dit à cause des traitements. Elle est métamorphosée et lors du 2e procès au Puy-en-Velay, elle a expliqué au président de la cour d'assises, elle disait, si vous voulez, je relève mon bas de jean, je vais vous montrer les cicatrices que j'ai à force de me scarifier.
Scarification. Et d'ailleurs, le président refusera de voir ce spectacle. Maître Renaud Portejoie, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir dans l'heure du crime. Vous êtes l'un des avocats de Cécile Bourgeon. Alors, question toute simple, qu'est-ce que vous attendez, maître, de ce nouveau procès ?
J'attends, la réponse va peut-être vous surprendre, mais j'attends des débats qui se déroulent dans une sérénité et une mesure que nous n'avons pas connue lors des précédentes audiences. J'ai parfaitement conscience que ma cliente cristallise tous les fantasmes et que cette affaire suscite une émotion toute particulière auprès de l'opinion publique, mais je persiste à penser que la justice doit être rendue sereinement pour passer correctement. Sans que les uns et les autres s'agacent, que toutes les questions soient posées, parce que les questions doivent être posées, mais que qu'on reste dans cette sérénité que nous n'avons pas connue. Moi, j'ai en mémoire quand même des échanges extrêmement houleux entre certains avocats. J'ai le souvenir d'atmosphères qui étaient pesantes. J'ai envie que les débats soient sereins, que les acteurs de ce procès soient sereins et que les spectateurs de ce procès soient sereins.
Alors, je comprends bien, maître, vous attendez de la sérénité de la part du public et c'est bien légitime. Pourtant, ce public qui a hué votre cliente et qui la considère depuis le début comme une menteuse.
Je reste persuadé que cette affaire ne serait pas la même si le Bourgeon, immédiatement après la découverte du corps, s'était manifesté auprès des services de police. Jamais cette affaire n'aurait pris cette ampleur. C'est le mensonge qui est à l'origine de tout. C'est le fait qu'ils aient inventé ce scénario macabre de cet enlèvement dans ce parc et justement de l'émotion que cela a suscité qui ont fait de cette affaire une affaire hors norme aujourd'hui. Si cette affaire suscite toujours une émotion assez forte, notamment dans l'opinion publique, c'est d'abord et avant tout à cause de Cécile Bourgeon elle-même, hein, qui a instrumentalisé l'opinion publique, qui a pris fait et cause pour elle. Donc c'est aussi ce qui fait que cette affaire a pris cette ampleur médiatique. J'en ai parfaitement conscience qu'elle est responsable de cet emballement médiatique, de cette frénésie médiatique. Elle en est responsable, mais malgré tout, c'est compliqué pour la justice de se départir de tout ça. Mais il lui appartient de se départir de cette pression, de cette émotion qui demeure encore aujourd'hui assez forte.
Et que dit-elle justement votre cliente Cécile Bourgeon pour sa défense ?
Plus de 7 ans après les faits, elle n'a jamais évolué sur un point. C'est-à-dire qu'elle persiste à dire qu'elle n'a jamais porté le moindre coup sur Fiona. Alors elle reconnaît ses défaillances, elle reconnaît naturellement qu'elle a été une très mauvaise mère, qu'elle a menti. Qu'elle n'a pas su protéger sa fille, mais elle conteste encore toujours avoir porté le moindre coup sur Fiona. Donc sa ligne de défense sera la même que devant la cour d'assises de première instance et que devant les cours d'assises d'appel.
Maître Constantino, vous venez d'écouter votre confrère. Je vous pose la même question qu'à Maître Portejoie. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès ? Peut-être au-delà d'ailleurs de la sérénité que réclame légitimement Maître Portejoie.
Oui, qu'on peut réclamer tous. Effectivement, on est bien d'accord là-dessus. Bah, écoutez, d'abord que ce procès soit le dernier, parce que vous l'annonciez comme tel tout à l'heure, mais si au fond, j'en ai absolument aucune certitude, moi. C'est-à-dire, quand je vois comment les choses se sont passées jusque-là, je ne peux pas assurer qu'il sera le dernier.
Vous craignez qu'il y ait d'autres incidents que
ce procès, on va dire à minima que ce procès va se tenir dans des conditions qui sont des conditions tout à fait singulières au regard des restrictions sanitaires que nous connaissons actuellement. Et que par conséquent, on est, sans faire de procès d'intention à quiconque, absolument pas à l'abri que puisse être exploitée aussi cette difficulté. Voilà, je n'en dis pas davantage, mais c'est toujours possible, hein, des débats qui tournent court, parce que finalement, ça prend pas la bonne tournure. On a déjà connu ça dans cette affaire. Le prétexte serait vite pris. Vous savez, on est très rapidement qu'à contact en ce moment.
Et maître, encore un petit mot, ça va être un procès de toute façon pour l'exemple ?
Écoutez, je n'aime pas beaucoup ce mot d'exemplarité, en fait.
Oui, c'est toujours un peu pompeux, mais c'est...
Non, mais c'est surtout que ça fait craindre qu'on fasse payer aux accusés ce que d'autres ont fait. Voilà. Et qu'ils ont déjà bien assez de ce qu'ils ont fait pour peu qu'ils l'assument. Voilà, moi c'est ça que je voudrais entendre, comme je voudrais entendre quelque chose qui s'approche un peu plus de la vérité de cette affaire. Je crois que tout le monde aurait à y gagner, à commencer par le père de cet enfant.
Merci beaucoup Maître Constantino pour votre témoignage ce soir dans l'heure du crime, d'avoir été invité de cette émission avec Maître Renaud Portejoie, qui est lui l'avocat de Cécile Bourgeon, et puis le journaliste Vincent Vantigem, journal 20 minutes, qui a suivi toute cette affaire et qui ce soir nous a apporté son précieux concours, l'affaire Fiona, entre dégoût et mensonge, à l'aube donc d'un quatrième procès qui sera peut-être décisif. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation, et puis un grand merci
à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir avec nous cette heure du crime.
Pour écouter RTL au travail,
sur la route,
dans les transports,
dans votre jardin
et où que vous soyez,
téléchargez dès maintenant et gratuitement la nouvelle application RTL.
RTL, toujours avec vous.